Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble pour deux heures d'actualité. Et à la une, vous devez tenir le mot d'ordre d'Emmanuel Macron à ses nouveaux ministres. Remaniement ce matin, sans surprise, sans prise de guerre. Un gouvernement toujours aussi fragile, la preuve. Elisabeth Borne s'exprimera après-demain devant le Parlement, mais la Première ministre esquivera un vote de confiance. En revanche, les Insoumis préviennent déjà, ils déposeront une motion de censure pour tenter de la faire tomber. Bref, la bataille continue et elle sera la une de votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Avec aussi le départ amer de ce gouvernement de Damien Abad, accusé de viol. Il quitte le ministère des Solidarités, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, cette information qu'RTL vous révèle ce soir, un deuxième combattant français est mort en Ukraine après avoir été blessé il y a un mois. Il avait 20 ans. La réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté requise contre Jean-Marc Reiser pour l'assassinat de Sophie Le Tan. Et puis baignade ou pas, les drapeaux, formes et couleurs sur les plages évoluent cet été et apparemment tout le monde n'était pas au courant. On va tout vous expliquer dans ce journal.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL va s'interroger, va s'inquiéter aussi après l'effondrement meurtrier d'un glacier en Italie. Une telle catastrophe est-elle possible en France? 18h30, le club Jalabert avec Christian Olivier, toute la bande, le Tour de France en transit depuis le Danemark. 19h15, on va refaire le monde et le gouvernement avec les polémistes. Et puis le temps, deux fois par demi-heure avec vous, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain?
Soleil pour tous demain.
On achète, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Aussitôt nommé, aussitôt réuni, premier conseil des ministres cet après-midi à l'Élysée.
Avec ces quelques mots d'Emmanuel Macron en préambule.
Il convient de prendre acte de l'absence de volonté des partis de gouvernement de participer à un accord de gouvernement. Dans ce contexte, vous aurez d'abord à tenir.
Alors, faute d'élargissement, c'est donc sur ses fidèles qu'Emmanuel Macron s'est appuyé pour constituer ce nouveau gouvernement. Bonsoir Thomas Desprez.
Bonsoir.
On retrouve donc dans cette nouvelle équipe un certain nombre de visages déjà familiers.
Oui, si je vous dis Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti ou encore Gabriel Attal, vous les connaissez pour certains depuis 5 ans, eh bien vous ne serez pas dépaysés parce que chez eux, personne ne bouge. Des fidèles parmi les fidèles confortés et d'autres récompensés. C'est le cas d'Olivier Véran. On avait l'habitude de le voir tous les soirs à la télé pendant les pandémies, eh bien ça va continuer. Il devient porte-parole du gouvernement. Tant mieux, les Français l'aiment bien et il est prêt à l'emploi, résume un conseiller. Et ça contraste avec Olivia Grégoire qui n'aura pas vraiment réussi à rencontrer les Français pendant cette courte période. Un mois et demi, elle prend la direction de Bercy pour un grand ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme. À noter tout de même deux changements majeurs. Une promotion pour Christophe Béchu, un proche d'Édouard Philippe qui devient ministre de la transition écologique, un poste clé, et un nouveau visage. Disons-le, c'est le seul de ce remaniement, François Braun, médecin urgentiste, nommé ministre de la Santé.
Dans ce gouvernement, il y a aussi des figures qui sont moins connues des Français, mais qui ne sont pas moins fidèles au chef de l'État.
Oui, à défaut d'avoir débauché des prises de guerre à gauche ou à droite, Emmanuel Macron peut compter sur des macronistes de la première heure, récompensés pour leurs bons et loyaux services pendant le premier quinquennat à l'Assemblée notamment. Ces noms ne vous disent rien, mais vous allez apprendre à les connaître. Jean-Noël Barrot, député du Modem depuis 5 ans, proche de François Bayrou, en charge du numérique. Roland Lescure, pur produit macroniste, ancien patron de la Caisse des dépôts du Québec qui devient ministre de l'Industrie, ou encore Agnès Firmin-Lebaudeau, une pharmacienne proche d'Édouard Philippe au ministère de la Santé.
Thomas Desprez, merci. Et dès ce matin, les oppositions ont raillé un simple jeu de chaises musicales et des changements insuffisants.
Alors, quels étaient les enjeux de ce remaniement? 1. Remplacer les battues des législatives et 2. En finir avec les polémiques. Damien Abad, accusé de viol, a donc été remplacé au ministère des Solidarités.
Une place qu'il a cédé au patron de la Croix-Rouge, Jean-Christophe Combes, non sans amertume.
Face aux calomnies ignobles dont je suis la cible, je me défendrai sans relâche jusqu'à que la justice confirme mon innocence. Je me battrai aussi contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie sans importance et qui fait de la calomnie une redoutable arme politique entre les mains d'esprits malveillants. Chacun devrait mesurer La violence inouïe pour un être humain, pour une famille, de telles pratiques, savamment orchestrées et trop souvent relayées sans discernement médiatique.
Damien Abad, lors de la passation de pouvoir au ministère des Solidarités, la secrétaire d'État Chrysoula Zakharopoulou, elle, ex-gynécologue accusée de viol par d'anciennes patientes, a été maintenue dans ses fonctions. Au total, 42 personnalités dans ce nouveau gouvernement, 21 hommes, 21 femmes, les femmes surreprésentées dans les secrétariats d'État.
Alors, équipe pilotée tout de même, toujours par une femme, Elisabeth Borne, la première ministre attendue après-demain au Parlement pour sa déclaration de politique générale.
Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Et le nouveau porte-parole du gouvernement Olivier Véran vient de le confirmer, hein. Elisabeth Borne ne prendra pas le risque de demander la confiance des parlementaires.
Oui Marion, parce qu'un vote de confiance sans majorité absolue, c'est un peu comme sauter d'un avion sans être tout à fait certain que le parachute va s'ouvrir. Donc bon, Matignon a fait semblant d'entretenir un peu le suspense, mais toute la Macronie se demandait bien ce qu'Elisabeth Borne serait allée faire dans cette galère. Et donc le nouveau porte-parole vient de le confirmer. La confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit. Il n'y aura pas de vote de confiance. Demander cette confiance, ça aurait voulu dire par exemple compter sur l'abstention des députés du Rassemblement National. En clair, passer ric-rac grâce à l'extrême droite. Ça, le camp Macron ne voulait pas courir le risque. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'Elisabeth Borne va passer une journée tranquille mercredi à l'Assemblée. Les insoumis crient déjà au déni de démocratie, à la dérobade de la Première ministre, et ils ont l'intention de déposer contre elle et contre son gouvernement une motion de censure. La riposte est déjà prête. La majorité rappelle notamment qu'en 1988, le Premier ministre Michel Rocard n'avait lui non plus pas demandé ce vote de confiance et qu'à l'époque, un jeune sénateur nommé Jean-Luc Mélenchon ne voyait pas le problème.
William Galibert, merci.
RTL Soir.
18h06 à Strasbourg. Maintenant, la peine maximale requise à l'encontre de Jean-Marc Reiser.
Jugé pour l'assassinat d'une étudiante, Sophie Letane, il y a 4 ans. Yannick Collomb, vous suivez ce procès pour RTL devant les assises du Bas-Rhin. Réclusion à perpétuité, donc demandée avec 22 ans de sûreté.
Oui, Sophie, c'est un rayon de soleil brisé net par une ombre noire, sombre, glaçante. C'est par ces mots que Laurent Guy, l'avocat général, a entamé ses réquisitions. En entrant dans cet appartement, elle est tombée dans un piège. Tout était prémédité. Il ne croit absolument pas à la version de l'accusé, celle d'une rencontre par hasard, d'un déchaînement de violence soudain qui aurait provoqué la mort de Sophie sur le coup. Ça ne tient pas pour les médecins légistes. Elle n'a pas pu mourir comme ça. L'avocat général poursuit. Ce qu'il vous présente, c'est un scénario. Ce n'est pas la réalité. Nous ne savons toujours pas comment est morte Sophie Letane, mais certainement pas de la manière décrite par Jean-Marc Reiser.
Ouais.
Pour justifier ces réquisitions lourdes, Laurent Guy a aussi rappelé ce que les experts psychiatres ont encore redit ce matin. Il y a une exceptionnelle dangerosité criminelle chez l'accusé, une personnalité narcissique, un homme froid et détaché qui considère les femmes comme des objets. Et l'avocat général de souligner que Jean-Marc Reiser a pendant cette audience plusieurs fois parlé de la victime en disant « ça ne bougeait plus, ça ». Sophie Letane n'est rien d'autre qu'une chose quand il en parle.
Ouais, Yannick Collomb à Strasbourg pour RTL. Une plainte, cette fois formellement déposée à l'encontre de l'insoumis, désormais président de la commission des finances à l'Assemblée, Éric Coquerel. Plainte pour agression sexuelle déposée par la militante de gauche ex-gilet jaune Sophie Tissier. Et puis c'est une information RTL, un deuxième combattant français est mort en Ukraine. Adrien D, un jeune homme de 20 ans, a succombé à ses blessures le 25 juin dernier. Il avait été blessé sur le front de Kharkiv début juin dans un tir d'artillerie russe. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 19h.
Mercredi, nouvelle grève à la SNCF et voici les prévisions de trafic dévoilées ce soir.
Ouais, circulation qui s'annonce perturbée sur l'ensemble du réseau. 2 TER sur 5 annoncés, 1 intercité sur 3, 3 TGV sur 5 sur les axes est, sur l'axe est du TGV, 3 sur 4 sur l'axe atlantique et sur l'axe nord en Ile-de-France, 1 train sur 2 sur les lignes B, C ou D du RER.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant dans RTL Soir avec des couleurs auxquelles il va falloir s'habituer cet été parce que les drapeaux de sécurité sur les plages évoluent. On vous explique tout juste après ça. Vous restez à l'écoute. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir. Des flammes devenues drapeaux et des couleurs différentes. Une nouvelle signalétique sur les plages. Il va falloir apprendre à connaître ces nouveaux drapeaux avant de se jeter à l'eau.
Oui, une évolution dont on n'avait pas entendu parler apparemment, ces baigneurs rencontrés à Quiberon par Nicolas Bobby, qui heureusement est là pour le décryptage.
De chaque côté de la plage de Quiberon-Port-Aliguin, deux mystérieux drapeaux rouges et jaunes flottent au vent. Les baigneurs intrigués n'avaient jamais vu cela.
Bah, c'est des belles couleurs, mais malheureusement, on ne sait pas à quoi ça correspond au niveau sécurité et tout ça. Quoi. Voilà, on n'a aucune information.
Non, franchement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Mystère.
Je me suis posé la question il y a deux jours parce que je n'ai jamais vu cette couleur de drapeau.
L'explication est très simple. Il s'agit d'une nouvelle réglementation européenne. Hervé Le Gall dirige à Lorient le CFI, le centre de formation des nageurs sauveteurs de la SNSM.
Avant, en France, nous avions donc des drapeaux bleus qui délimitaient la zone de baignade. Là, toute l'Europe est passée sur des drapeaux beaucoup plus voyants.
Au-dessus des postes de secours, désormais les flammes sont remplacées par des drapeaux rectangulaires, vert pour une baignade autorisée, jaune si elle est dangereuse, rouge lorsqu'elle est totalement interdite.
Donc on résume, Nicolas, drapeau vert et rouge, ça ne bouge pas. Et le orange, baignade surveillée, danger limité, ça devient jaune.
Pour le drapeau bleu, surveillance aux horaires d'ouverture du poste de secours, là ça devient rouge et jaune. Et puis il y a ce drapeau que vous avez déjà vu, Julien, drapeau à damier noir.
Oui.
Et blanc.
Et ce n'est pas de la Formule 1.
Voilà, ce n'est pas de la Formule 1. C'est pour ceux qui pratiquent des sports nautiques et aquatiques où la baignade n'est pas interdite.
Bon, ça sépare mais... les surfeurs et les nageurs.
Voilà, exactement, voilà, exactement.
Ça évite de prendre
vous
un coup de planche. À Wimbledon, c'est bien un drapeau bleu-blanc-rouge qui flotte en ce moment sur les huitièmes de finale. Deux Françaises en lice aujourd'hui.
Oui, Harmony Tan face à l'Américaine Amanda Anisimova. Et Alizé Cornet tombe ce week-end de la numéro 1 mondiale opposée à l'Australienne Tomljanovic, Eric Silvestro. C'est bien parti pour la Française.
Oui, pour l'instant, ça se passe très bien pour Alizé Cornet qui a remporté le premier set 6 jeux à 4 et qui mène 2 jeux à 1 dans la deuxième manche. Elle cherche à se qualifier pour un deuxième quart de finale dans sa carrière en Grand Chelem. Le premier, c'était cette saison en Australie. À 32 ans, elle joue le meilleur tennis de sa vie et elle pourrait retrouver Rybakina en cas de victoire contre Tomljanovic. Ça se passe vraiment très très bien pour Alizé Cornet qui a fait la course en tête durant tout le premier set et qui était menée au début du deuxième, mais qui va beaucoup mieux. Elle joue sur le court numéro 2. Je ne sais pas si vous le savez, c'est le court qu'on appelle le cimetière des champions parce que Sampras, Agassi, Connors ou Hingis sont perdus sur ce court numéro 2. Il est donc surnommé le cimetière des champions, mais pour l'instant, ça se passe très bien pour Alizé Cornet. Et puis Amaury Tan, elle va jouer également dans quelques minutes.
Il sourit donc au challenger. C'est ça. Allez, on vous retrouve tout à l'heure pour poursuivre ce match. Pour le Tour de France, la journée de repos et de transfert entre le Danemark et la France.
Demain, étape entre Dunkerque et Calais. Et rendez-vous avec Christian Olivier dans le club Jalabert tout à l'heure. Ce sera à 18h30 sur RTL.
Et puis en foot, du côté de Marseille, le nom du nouvel entraîneur officialisé, enfin, de l'arrivée officialisée, le Croate. Igor Tudor, passé notamment par le championnat italien, remplacera le démissionnaire Jorge Sampaoli la saison prochaine.
Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps pour demain, donc c'est bien.
Exactement,
c'est ça, Peggy.
Vous avez tout compris Julien, c'est du soleil et pour tout le monde, on va oublier les gros orages actuellement qu'il y a eu cet après-midi sur le centre-est et qui sont en train de s'évacuer par l'est. Je rappelle qu'il y a toujours 4 départements en vigilance orange ce soir, donc prudence, il s'agit de la Loire, la Haute-Loire, également l'Ardèche et le Rhône. Mais demain, on en parle parlera plus du beau temps, alors juste quelques bémols le matin au pied des Pyrénées, un peu plus de nuages et ça pourra tourner à l'averse, voire au tonnerre l'après-midi, mais pas grand chose sur les bords de Manche également, plus de grisaille le matin, mais ça va vite se dégager et les températures elles seront quasi stationnaires et du soleil pour tous, de 19 au Havre à 35 à Nîmes, 30 à Montauban, 29 à Lyon et Strasbourg, 27 à Paris, 26 à Reims, 25 à Biarritz et 22 à Lille.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Après l'effondrement meurtrier d'un glacier en Italie, faut-il s'inquiéter ici en France? Ce week-end, à cause de la canicule, à cause du réchauffement climatique, 6 personnes ont été tuées, 8 autres blessées sur le glacier transalpin de la Marmolada. Une mer de neige, de roches a déferlé sur les victimes à près de 300 km/h. On va poser 3 questions à notre brigade RTL, à notre correspondant dans les Alpes. Bonsoir Serge Peillot.
Bonsoir Julien.
Le climat se dérègle aussi chez nous, Serge. Est-ce que certains de nos glaciers sont déjà sous surveillance ?
Oui, en France, plusieurs glaciers sont surveillés de près par les scientifiques, principalement dans le massif du Mont Blanc. Il y a le glacier de Tacona, dans la vallée de Chamonix, mais aussi le glacier de Tête Rousse, au-dessus de Saint-Gervais. Pour ce dernier, une alerte avait déjà eu lieu il y a 12 ans, car une poche d'eau, un lac, s'était formée à l'intérieur du glacier et menaçait de céder brutalement. Christian Vincent, glaciologue au laboratoire de Grenoble.
On avait été obligé de donner l'alerte à la préfecture en 2010 afin de procéder à la vidange de ce lac. Ce glacier de Tête-Rousse, ce lac a été vidangé plusieurs fois en 2010, 2011, 2012. C'est un glacier qui est toujours sous surveillance aujourd'hui.
Et est-ce que ce sont des glaciers sur lesquels il y a de l'activité, Serge ?
Alors pour le glacier de Tête-Rousse, les alpinistes qui tentent l'ascension du Mont Blanc peuvent être exposés à une éventuelle rupture. Mais si une poche d'eau cède brutalement, c'est le village de Saint-Gervais et une grande partie de sa population qui pourrait être touchée par une énorme vague d'eau et de glace. Pour le glacier de Tacona, un effondrement brutal menacerait des habitations situées dans la vallée de Chamonix.
Expliquez-nous, Serge, comment nos glaciers sont surveillés exactement, concrètement ?
Alors, ces glaciers sont auscultés en permanence pour surveiller leur réchauffement. C'est le cas du glacier de Tacona, comme l'explique le glaciologue Christian Vincent.
On a fait des forages en profondeur, jusqu'à 130 mètres de profondeur, dans lesquels on a installé des capteurs de température. En parallèle, on fait de la modélisation numérique, calculer l'évolution de la température de ce glacier, afin de savoir quand est-ce que ce glacier pourrait être déstabilisé.
Voilà, mais il reste encore illusoire de prévoir au jour et à l'heure près l'effondrement d'un glacier.
Les explications de la Brigade RTL. Merci beaucoup Serge Peuillot pour vos précisions. Ce soir, petite pause et puis ensuite Sébastien Chenu, député RN, vice-président de l'Assemblée, sera notre invité. Il va réagir au remaniement, au premier conseil des ministres et à l'absence de vote de confiance après-demain puisque Elisabeth Borne esquivera ce vote de confiance. A tout de suite sur RTL.
RTL soir. Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h20, bonne fin de journée. RTL Soir à vos côtés. On continue de s'interroger sur le nouveau gouvernement, un remaniement. Mais pourquoi faire ? Pas de surprise, pas de prise de guerre et des oppositions très sceptiques. Ce soir, notre invité est Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, vice-président désormais de l'Assemblée. Bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Alors avant de commenter le casting du nouveau gouvernement, Sébastien Chenu, on apprend, et c'est confirmé à l'instant, qu'Elisabeth Borne ne sollicitera pas la confiance des députés, pas de vote de confiance après son discours mercredi de politique générale. Bref, la Première ministre ne se met pas en danger, elle ne met pas en danger sa nouvelle équipe. Vous auriez préféré un vote ?
Écoutez, tout ça n'a pas une grande importance puisqu'elle pouvait faire sans. Ce n'était pas une obligation, donc elle décide de s'en passer. Moi, à titre personnel, j'aurais préféré qu'elle puisse demander cette confiance, j'allais dire, par égard pour le Parlement, mais on s'en remettra. La Première ministre a choisi de ne pas le faire. Effectivement, elle ne veut pas prendre de risques. Moi, je pense que ce qui est intéressant, et ce que les Français attendent, c'est plutôt de savoir ce que nous allons faire. Nous, les députés Rassemblement National, on vient de déposer une résolution pour la création d'une commission d'enquête sur l'inflation. Ça nous semble important. On va déposer une proposition de loi sur la réintégration des soignants. Ça nous semble important aussi. C'est probablement plus important que savoir si Elisabeth Borne a ou ne dispose ou ne dispose pas d'une majorité de confiance à l'Assemblée.
Bon, en tout cas, il y a un agenda. Et mercredi, il n'y aura pas de vote de confiance, mais il y aura sans doute un vote de défiance parce que la gauche pourrait proposer et va proposer une motion de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement. Vous pourriez voter avec la NUP ? Vous en avez déjà discuté avec les autres députés RN ?
Non, mais vous savez, il y a deux façons d'engager l'action politique. Ou vous l'engagez comme les députés du Rassemblement National. Je vous ai indiqué deux propositions que nous allons faire. Résolution sur le pouvoir d'achat, sur une commission d'enquête sur le pouvoir d'achat. Réintégration des soignants via une proposition de loi. C'est une opposition constructive.
Vous ne voulez pas de blocage.
On ne vote pas la confiance. Et puis, une autre façon de faire, c'est ce que fait l'extrême gauche, c'est déjà vouloir tout bloquer. Personne n'a commencé à dire un mot. On ne connaît même pas la ligne directrice, d'ailleurs, de ce que va raconter Elisabeth Borne, que déjà les députés d'extrême gauche veulent tout bloquer, tout casser. Nous, on n'est pas là pour tout bloquer, tout casser. On est là pour proposer des solutions pour les Français.
Revenons sur le casting du nouveau gouvernement. Marine Le Pen a très vite estimé qu'avec ce gouvernement, l'exécutif, je la cite, ignorait le verdict des urnes. C'est-à-dire, Sébastien Chenu ?
Le moins qu'on puisse dire, c'est que le message des urnes n'a pas été entendu. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'élargissement. Alors, il y a peut-être un problème de recrutement en Macronie. Moi, je note que pour être ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron, il vaut mieux être un homme, un techno, et avoir trahi sa famille politique. En général, on est récompensé. Lorsqu'on est une femme, on a le droit qu'à être secrétaire d'État. Je note un vrai recul aussi sur l'outre-mer. Là, il y avait un message politique. L'outre-mer avait envoyé un message politique au moment des élections présidentielles. Eh bien, l'outre-mer est sanctionné, puisqu'il n'y a même plus de ministère plein de l'outre-mer. C'est rattaché à Gérald Darmanin, dont on se demande ce qu'il a bien pu faire, ce qu'il a bien pu réussir pour être récompensé.
On a entendu des élus RN s'étonner de l'élargissement du portefeuille de Gérald Darmanin, donc qui, vous l'avez dit, hein, désormais ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Il y a ensuite un ministre délégué de l'Outre-mer. Mais c'est vrai qu'après le fiasco du Stade de France et ses excuses, on entend beaucoup de critiques dans votre camp politique. Vous ne trouvez pas la promotion méritée ?
Mais c'est-à-dire qu'on ne comprend pas la logique de ce gouvernement. Le Premier ministre sort Damien Abad, mais garde Gérald Darmanin, dont on pourrait penser qu'il n'a pas parfaitement réussi, seulement qu'on puisse dire, sa mission. On garde Madame Zakharopoulou, mais pourquoi pas la secrétaire d'État au développement et à la francophonie. On garde Éric Dupond-Moretti, sur lequel il y a eu une enquête, je crois, qui a été ouverte, mais on sort Damien Abad. Il n'y a pas vraiment de logique non plus sur les ministres. Certains ont échoué, ils sont là. On fait revenir Madame Schiappa, on se demande bien pourquoi. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de ligne politique dans ce gouvernement. En fait, c'est un peu une sorte d'auberge espagnole.
Mais ce départ de Damien Abad, qui était jusqu'ici ministre des Solidarités, accusé par trois femmes, visé par une enquête pour tentative de viol, il y a un devoir d'exemplarité, dit Elisabeth Borne dans le magazine Elle ce soir. Est-ce qu'elle a raison ? Est-ce que ce départ était inéluctable ? Est-ce que vous le souhaitiez ?
Et moi, nous avons toujours dit que nous étions attachés à la présomption d'innocence et qu'on ne fait pas de la politique en inventant un champ du droit qui serait la présomption de culpabilité. Le problème, c'est que le gouvernement s'est mis tout seul dans cette situation. Monsieur Abad avait déjà sur le dos un certain nombre d'affaires lorsqu'il a été nommé. Il aurait dû lui-même refuser cette nomination plutôt que de prendre des nouvelles responsabilités. Il aurait dû régler ses affaires avant d'accepter de nouvelles responsabilités et de trahir d'ailleurs accessoirement son camp. Et le gouvernement, qui était au courant, puisque on l'a su bien après, n'aurait pas dû le nommer. Donc ils se sont mis dans cet imbroglio épouvantable, dont finalement il n'y a pas beaucoup de gagnants lorsqu'on sort, puisqu'on ne comprend plus rien sur la logique lorsqu'on est mis en examen, lorsqu'il y a une enquête qui est ouverte, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part. On ne voit pas bien, puisque c'est différent selon les ministres, c'est un peu à la carte. De l'autre côté, la présomption d'innocence doit être respectée, mais elle doit être respectée pour tout le monde. Tout ça n'est pas très clair, mais c'est à l'image de ce gouvernement. C'est à l'image de ce que fait Emmanuel Macron. C'est plus du en même temps, c'est du n'importe quoi.
Sébastien Chenu, vous avez évoqué l'absence d'ouverture au sein de ce gouvernement, puisque Marine Le Pen, je le disait que la composition même de ce casting était une ignorance en quelque sorte du verdict des urnes. Vous auriez aimé que Emmanuel Macron vous propose des ministères ?
Non, mais vous savez, nous, on ne cherche pas des Marocains. Nous, ce qu'on souhaite, c'est faire infléchir la politique du gouvernement, qu'il change de braquet. On l'a dit plusieurs fois, la réforme des retraites, les Français n'en veulent pas, je crois qu'ils n'entendent pas le message. La politique liée au pouvoir d'achat, les propositions liées au pouvoir d'achat, la réintégration des soignants, le président de la République fait semblant de ne pas entendre les messages. Or, il n'était pas capable de changer de braquet. Par conséquent, nous n'allions pas entrer dans un gouvernement pour faire la politique qui est opposée à ce que nous souhaitons.
Merci Sébastien Chenu, député. Merci. RN du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL pour réagir à ce remaniement et à l'absence de vote de confiance donc mercredi au Parlement. Petite pause et puis ensuite dans RTL Soir, le rappel des grands titres de l'actualité si vous nous rejoignez. Et puis évidemment, votre club Jalabert, le Tour de France, ça y est, c'est parti, c'est jusqu'à 19h pendant tout le tour dans RTL Soir, le tour qui est en transit depuis le Danemark. A tout de suite. Hein.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Bonne fin de journée, RTL Soir, quasiment 18h30.
RTL Soir, avec Julien Cellier.
Et Marion Calais vous rappelle les trois titres à retenir si vous nous rejoignez en cette fin de journée.
Un nouveau gouvernement ce matin et une confirmation ce soir. La première ministre Elisabeth Borne ne se risquera pas à un vote de confiance mercredi devant le Parlement. Les insoumis, eux, ont déjà prévu de déposer une motion de censure. Cette information que RTL vous révèle ce soir, la mort d'un combattant français de la Légion internationale en Ukraine. Il avait été blessé il y a un mois. On y reviendra dans le journal de 19h. Et puis à Wimbledon, le huitième de finale d'Alizé Cornet face à l'Australienne Tomljanovic, Eric Silvestro. C'est un peu plus compliqué dans la deuxième manche.
Oui, ça se resserre. Alizé Cornet qui a remporté le premier set 6-4, qui a manqué une balle de 3 jeux 1 dans la deuxième manche. Et c'est désormais Tomljanovic qui mène 4 jeux à 2 dans le deuxième set. Et Amaury Tan, elle a débuté son match contre Anisimova. Un jeu partout.
On suit tout ça en fil rouge, bien entendu, sur l'herbe verte de Wimbledon. Merci les amis. On passe au temps maintenant. Peggy, dites-nous tout pour demain.
Du soleil et pour tout le monde demain. On oublie les gros orages qu'il y a eu aujourd'hui sur le centre-est qui sont en train de s'évacuer par l'est. Allez, juste un peu de grisaille, c'est vrai, le matin sur la Manche, mais ça va s'évacuer. Un peu plus de nuages aussi près des Pyrénées le matin, avec peut-être une averse dans l'après-midi, voire un coup de tonnerre, mais c'est uniquement sur le relief. Et sinon, ailleurs, il fera très beau. Peut-être un peu plus de nuages près des frontières du nord, mais c'est uniquement dans l'après-midi et c'est juste pour la déco. L'impression restera belle. Les températures encore très élevées dans le sud-est. 35 degrés à Marseille, 34 à Toulon, 33 à Perpignan, 31 à Ajaccio. Il fera 29 degrés à Bordeaux, Toulouse et Nice, 28 à Limoges, 27 à Paris, Tours, Bourges et Aurillac, 26 à Langres, 24 à Rennes, 22 à Lille, 21 à Caen et 19 à Cherbourg.
Merci beaucoup Peggy. Peggy, il est 18h30 et qu'est-ce qui se passe à 18h30 pendant 3 semaines pendant le Tour de France? C'est le
Club Jalabert.
Le Club Jalabert avec Christian Olivier et toute la bande ce soir dans le nord de la France. Bonsoir Christian.
Bonsoir. Et oui, nous sommes dans les Hauts-de-France et Laurent Jalabert est déjà au taquet avec les auditeurs sur le 32-10, 3-2-1-0.
C'est parfait, on vous laisse la main pendant une demi-heure et on se retrouve pour l'info à 19h. D'ici là, une demi-heure de vélo.